Wow. Deuxième strophe. Par ta puissance, puissance brise sous mes marisances, sous mes ma résistance. C'est jamais un passage que nous risquons de résister. C'est le passage de ce matin. Beaucoup de chrétiens, dans ce passage, ont du mal à accepter le plein enseignement de la parole de Dieu. Ici, c'est compréhensible. C'est normal, c'est humain. C'est pour cela que la Bible existe. Parce que beaucoup qui est compréhensible, normal et humain est entièrement en contrarié contre ce que la Bible nous enseigne, ce que les principes du royaume céleste nous enseignent. Et donc, je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Hébreux chapitre 12. J'ai intitulé, comme tous les dimanches, j'ai plusieurs titres avant de décider sur le bon. Je vous rappelle encore une fois. Hébreux n'est pas écrit pour les jeunes qui veulent flâner dans la vie, pour les personnes qui ne prennent pas trop sérieusement de la vie. C'est un livre pour des gens plus maturés, et très souvent cette maturation est due à la souffrance qu'ils ont rencontrée sur le chemin de la vie quotidienne. Et ayant compris Dieu dans tout ce qui se passait, ils sont prêts à vraiment plonger dans les profondeurs de Hébreux. Mais normalement, les jeunes gens, ils ne cherchent pas trop Hébreux. Même les jeunes adultes qui avaient tout l'enthousiasme de la vie devant eux, ils risquent de laisser ça un peu à côté. Je vous conseille de ne le pas faire comme ça. Ça, c'est une tendance. Nous vivons très souvent selon nos tendances. Nous sommes impulsés, propulsés en avant par des tendances. Envie ici, arrêté par un envie ici, et puis on va de gauche en gauche comme de l'eau qui cherche le niveau le moins résistant. Nous vivons notre vie comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu permet certaines choses, il fait plus que permettre. Il désigne, il insiste, il détermine que, à travers cette épreuve que moi j'ai placée devant toi, tu vas sortir plus rayonnant en tant que victoire dans la vie chrétienne. Et vous savez, parce qu'on avait déjà parlé sur ce fait, que c'était un peuple qui était très zélé pour la parole et pour Jésus-Christ, mais qui, des années plus tard, sont moins zélés. Donc, fin de chapitre 10, souvenez-vous, chapitre 5 disait « Depuis longtemps, vous aurez dû être des maîtres, mais vous ne l'êtes pas ». Vous aurez dû. Donc, quand Dieu dit « vous aurez dû », c'est-à-dire il n'y a pas d'excuse. Mais c'était le cas. Et c'est souvent notre cas. C'était des gens qui commençaient à négliger leur si grand salut. Donc, cet avertissement, attention, c'est effrayante, même la pensée de négliger un si grand salut, parce que ça revient comme une évidence que vous ne l'avez même pas reçue. Oui ou non, Dieu le sait. mais de prendre garde. Et puis il y en a d'autres. La possibilité pour ceux qui marchent dans la bonne parole et la bonne voie, qui terminent par avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Donc il n'y a aucune personne. La personne qui lit à la légère, qui dit « Oh, ça ne me concerne pas, j'ai pris une prière il y a 10 ans, j'ai invité Jésus d'entrer dans mon cœur. » Ça ne m'intéresse pas. Un chrétien ne peut pas parler comme ça. Une évidence que cette personne est probablement pas un possesseur de la vie éternelle. Parle comme ça. Celui qui grandit dans sa foi parle autre et il apprend à parler autre. Parce que Dieu désigne la souffrance pour que ça soit le cas. Et vous allez vous rappeler, la semaine dernière, n'est-ce pas, last week, nous avons vu ces 3 points dans ces 2 premiers versets. Regardez donc, après cette longue liste de gens imparfaits, mais qui croyaient, qui regardaient dans l'avenir, ils sont des témoins maintenant. Pas les témoins qui nous regardent, qui est peut-être le cas, on ne sait pas s'ils peuvent savoir ce qui se passe ici sur cette planète ou pas, mais ils ont été témoignés par Dieu d'avoir la foi qui sauve. Regardez donc, en tant que chrétien, nous devrions lire souvent Hébreux chapitre 11. Souvent, assez régulièrement, plusieurs fois, dans l'année, et de regarder vers Jésus en haut et de regarder en avant vers ce que Jésus regardait en avant, la joie qui était devant lui. Je crois que la meilleure chose aujourd'hui, c'était simplement de parcourir 11 versets, y compris les 2 versets, juste comme une petite révision. Et j'ai mis à la colonne droite les grands sujets dans le verset, ce que nous avons vu la semaine dernière. Je lirai le verset et vous pouvez regarder les 4 points qui résument les versets. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. 2 choses. Rejetons le fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc 4 grands points, nous sommes environnés, un indicatif suivi par 3 impératifs, rejetons, courons. Rejetons le fardeau, les innocentes choses, les bonnes choses qui deviennent l'ennemi du meilleur chose, sont pas mauvaises, sont pas immorales, ils sont pas interdits, mais ils distraient au point où on n'arrive pas. Sans parler du péché. Oui, on va parler du péché parce qu'il y a le péché aussi qui nous enveloppe, tous les deux, si facilement. Et puis, le 2e verset que nous avons vu, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur, le créateur, le terminateur, si ça existe, de notre foi, le alpha et l'oméga. Savez-vous que Jésus, en tant qu'être humain, vivait par la foi? Jésus vivait par la foi. Sa foi a été éprouvée tous les jours d'une manière féroce. Il vivait par la foi. Il se confiait dans l'Éternel. Combien de paroles qu'il nous dit prophétiquement dans l'Ancien Testament et après le fait dans le Nouveau Testament, Jésus avait les yeux fixes sur son Éternel. Il se confiait, il croyait en lui. Il vivait par la foi. Parce que nous ne serons sauvés que par la foi. Et sa foi a été éprouvée jusqu'au bout. Et donc, ayant le regard sur lui, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Et finalement, il a terminé par être assis. Il est là maintenant à la droite de Dieu. Cinq grandes pensées donc. Ayons-nous les regards sur Jésus, puis le reste de Jésus. Jésus a souffert l'horrible crucifixion de la croix dans son corps. Jésus a méprisé l'ignominie dans son âme qui a été envahie par ce sentiment de honte parce qu'il est devenu péché pour nous. Et il nous dit, Jésus voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Sinon, il fallait qu'il garde ses yeux fixes sur une joie encore plus merveilleuse, si c'est possible, de ce qu'ils avaient avant. Parce que maintenant, en pratique, Jésus a pris l'obéissance, pas la chose qu'il a souffert, chapitre 5, verset 7 de ce livre, par qu'il a pris de ne plus être désobéissante, par qu'il a pris de arrêter de pécher, parce qu'il n'avait jamais péché. Il n'a jamais fait du mal. Nous apprenons par la souffrance, surtout, à arrêter le péché, parce que nous ne comprenons pas la profondeur et l'ampleur du péché qui fait sortir des actes de omission et des actes de commission. Jésus a subi ça parce qu'il gardait ses yeux fixes. Il priait constamment. Il disait au Père que cette chose ne se passe pas. Nous ne lisons qu'il a fait ça que trois fois dans le jardin de Gethsemane. Nous ne savons pas s'il avait fait ça déjà mille fois avant d'arriver au jardin de Gethsemane. Mais nous savons, ici, il a fait, dans le jardin, il a prié. Jésus a souffert la croix. Jésus a méprisé l'ignominie. Jésus voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Jésus est maintenant, à cause de ça, assise à la droite de Dieu. Donc, garde les yeux fixes sur lui, c'est sûr. N'est-ce pas? Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle grande opposition de la part des pécheurs, virgule, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez, ça c'est un mot qui est très très fort, un mot qui veut dire réfléchissez, contemplez, on a entendu déjà ce mot ce matin, contempler, c'est-à-dire repasser les choses dans l'esprit, méditer des cieux, pas simplement, oui, je sais ça, taillez, cochez, je connais ce fait théologique, non, réfléchissez, approfondissez-vous, faites prier cette idée, changez les paroles, articulez mieux l'idée que Dieu vous articule dans sa parole de Dieu, considérez-vous. C'est pour cela que j'ai mis deux fois le « vous », parce que c'est ici visé aux chrétiens. Considérez-vous que Jésus a supporté une forte hostilité. Alors ici, ce n'est pas une question de maladie, question de cancer, question de manque de finances, question d'autres choses qui nous accablent, qui sont très importantes pour nous et qui étaient aussi importantes pour lui, mais qui étaient toujours minoritaire par rapport à ce qui était majoritaire. Celui qui ne cherchait que le royaume de Dieu et qui avait aussi le manque de beaucoup de choses à remarquer pour qu'il puisse vivre bien. Et donc, il est dormi derrière les arbres parfois parce qu'il n'y avait pas de là où il peut reposer sa tête. Il allait sans manger. Parce que même si la prière donne à nous aujourd'hui notre pain quotidien, il n'avait quand même rien mangé. Il a reconnu quand même la raison pour laquelle il a dit à ses disciples, quand vous priez, priez comme ça. Pour que vous compreniez et vous vous rappeliez que Dieu pourvoit tous vos biens matériels. Donc considérez l'hostilité dirigé vers Jésus-Christ, pas simplement la dernière semaine de sa vie, mais toute sa vie. Jésus avait rarement quelqu'un, à part des gens qui applaudissaient de loin, parce qu'ils attendaient encore manger demain. Ils attendaient, ils rêvaient un roi qui allait juste leur donner à manger tous les jours et régler tous les problèmes et avoir la plus grande puissance pour vaincre tous les ennemis. Ils avaient plein de suiveurs très superficiels, très derrière une façade, très prêts à changer comme ça si jamais il arrive quelque chose de désagréable. Ce qui c'était le cas. Aucune personne n'est restée avec lui à sa crucifixion. Même ses disciples sont tous fuis, n'est-ce pas? Mais il a résisté une hostilité. Pas simplement les choses qui arrivent, mais les choses qui étaient planifiées contre lui, jour après jour après jour. Considérez ça. Réfléchissez ça. Je suis en train de réfléchir vocalement sur ça un tout petit peu. Pour que vous preniez l'idée en semence et que vous rentrez et que vous réfléchissiez en profondeur la réalité de ce que nous sommes en train de voir sur ce passage. Considérez-vous afin que vous ne vous lassiez point âme découragée, parce que vous risquez de vous lasser, vous risquez de jeter l'éponge, ça suffit. J'en ai assez. Ça y est. Oh, considérez ça. Celui vers qui nous regarde est celui qui a été bombardé sans arrêt avec l'hostilité des gens. Et puis, pour que vous ne soyez pas trop victime de ce sentiment de victime, oh combien nous parlons comme si nous sommes des victimes de quoi que ce soit. Dieu veut que nous apprenions, une victime chrétienne n'existe pas. Il n'y a pas de victime. Quand nous comprenions qu'il n'y a aucune chose qui peut nous arriver, où Dieu dit, ça me dépasse. Vous êtes victime. Ah non, 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 vous êtes placé là parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui détermine la longueur de cette épreuve, l'intensité de cette épreuve, la sorte, espèce de cette épreuve, une surprise que vous n'avez jamais contemplée avant. C'est moi qui vois tout ça bien avant. Il n'y a pas de victime. Il faut que nous rejetons toute cette idée de pitoi de soi, de mentalité victime. Ça n'existe pas, oui, dans ma tête, mais grâce à Dieu, avec les choses qui arrivent dans ma tête, si je réponds comme Christ aurait fait, je me suis débarrassé de cette mentalité peu à peu, mais pas dans une semaine. Pour toute une vie. Et puis, donc, il a dit deux choses. Oui, vous êtes en combat contre le péché. Ça va sans dire. Ça, c'est la vie chrétienne. On se met sur un pèlerinage contre le péché. Quel péché? Ici. Ça, c'est le péché qui peut me détruire. Votre péché ne peut pas me détruire. Votre péché ne peut pas me toucher. Satan ne peut pas me toucher. Le monde ne peut pas me toucher. Mais si moi, ici, vote en faveur de votre péché, ou en faveur de Satan, ou en faveur du monde, ça c'est le péché que Dieu s'intéresse quand il prescrit exprès, précision, l'épreuve, dans toute sa longueur ou courte espace, qu'il a déterminé pour qu'il puisse aller jusqu'aux profondeurs de votre problème. Péché, c'est votre problème, c'est mon problème. Verset 5. vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Il y a une exhortation oubliée. Et donc, qu'est-ce qu'il dit cette exhortation? Ça vient de Proverbe 3:15. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Pourquoi il dit ça? Parce que mon fils, vous risquez de mépriser. Et si vous réfléchissez ça si bien, demandez à votre famille, devant votre mère, votre père, vos enfants, d'autres personnes qui tournent, quand il vous arrive, quoi que ce soit comme épreuve, quelle est votre réponse sur le visage, dans le cœur, avec les paroles, la tonalité de parole? À vous de voir, à moi de voir. Mais quand ça m'arrive, je vois, oh Seigneur, comme il reste du nettoyage à faire ici. Ma réponse face à ce qui m'arrive prouve que la saleté n'est pas encore enlevée, que Dieu a du travail à faire à l'intérieur de moi. Ne méprise pas le châtiment. Mépris, c'est sérieux. Mépris, c'est de rejeter. Mépris, c'est de dire, sans parole, j'en ai marre. Mais l'inflexion de la voix dit ça. Et Jésus, en Corinthiens chapitre 10, dit le contexte, aucune tentation ne vous est survenue. Le contexte, c'est une warning aux gens qui murmuraient de leur état. 28 000 personnes tuées dans une seule journée et le reste ne pouvait pas entrer simplement parce qu'ils n'étaient pas contents de la discipline du Seigneur. Et ça, c'est l'enseignement ici. Ne méprise pas, ne perds pas courage. Le châtiment, ça c'est un mot qui veut dire correction, ça c'est un mot qui veut dire discipline, ça c'est un mot qui veut dire instruction. On verra ça dans un instant. Ne perdez pas courage quand il te reprend. Oh, ça c'est un peu plus fort. Il y a de correction, il y a de l'instruction, il y a de châtiment, il y a de l'école, il y a des cours à faire, il y a des 0 sur 20, oula, et il y a des 10 sur 20, il y a des 19 sur 20, mais quand même Dieu veut 20 sur 20, donc il va vous laisser sur le chemin. Vous n'allez pas arriver à 20 sur 20 sur cette planète, mais vous allez vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout, parce que vous avez reçu un don, une foi divine qui ne peut pas ne pas croire jusqu'au bout. Et donc, ici, je vois quatre choses. Une exhortation oubliée. Attention, c'est grave. Un châtiment qui risque d'être méprisé. Une reproche qui est encore plus sévère où Dieu dit, regarde Robert, je t'avais dit déjà la semaine dernière, et la semaine avant ça, et la semaine avant ça, attention. Ça, c'est d'être repris. Oh, mais il fait ça beaucoup plus gentiment que ça. Mais pas moins dur. Plus dur, quoi. Et puis, reproche ignoré, et donc découragé, et Dieu te reprend. Vous voyez ça? Il te reprend. Les trois derniers mots dans le verset. Il te reprend. Il te reprend. Sujet, verbe. Dieu te reprend. Qui est ici parmi nous où Dieu ne reprend pas? Il est marqué, ceux qui sont des enfants illégitimes. Il est marqué. On va lire. Dieu te reprend. Ton problème, mon problème, comment est-ce que je réponds quand il me reprend? Comment est-ce que je réponds quand il me reprend? C'est un jeu de mots. Et puis 6. Car le Seigneur châtie châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. Le Seigneur discipline, il est marqué. Il aime le discipliné. Attention, j'ai mis accent aigu ici. Il aime celui qui est discipliné, sinon il n'y aura pas de discipline pour lui. C'est pour cela que quand des épreuves arrivent, surtout sur un plan persécution nationale, locale, des gens disent, des vrais croyants comprennent, ils tremblent, ils prient, ils pleurent, mais ils ne jettent pas l'éponge. Ils peuvent pas, dans le sens que il est trop fort pour moi. Ils peuvent, mais ils crient. Dieu, je ne veux pas. Je plonge, je tombe. Et le moment où je pense jeter ma foi, Dieu vient en secours. Il me donne du courage. Il me donne de faire ses pipelets. Il me montre, non, tu as encore un autre pas à faire. Et il risque d'avoir un deuxième pas après ça. Il risque d'avoir un troisième pas après ça. Et vous marchez, vous sortez dans la lumière. Vous avez été déjà là, certains de vous, je suis sûr. Enfin, peut-être. Ça, c'est le chemin que Dieu a voulu pour ses enfants parce qu'il les aime tant. Il aime le discipliné, il frappe de la verge. Allez en arrière une page, peut-être deux. Et verset 35b. Pas 35a, mais milieu de 35. Cette liste de gens qui souffraient énormément. D'autres. Milieu du verset 35, Hébreux 11, 35. D'autres furent livrés au tourment, mais n'acceptèrent point la délivrance. Ils auraient pu. Ils n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. 36. D'autres subirent les moqueries, le fouet. Je m'arrête juste un instant pour dire le mot verge. Dieu frappe de la verge et ce mot, le même mot, fouet, ils subirent des moqueries, la fouet, les chaînes, le prison, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, virgule, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38, eux dont le monde n'était pas digne. Continuez, errant dans des déserts, errant dans les montagnes, dans les cavernes, et les autres de la terre. Arrête là. Bienvenue à la vie chrétienne. C'était la vie chrétienne normale pour une grande partie de la population chrétienne depuis longtemps. Les gens qui ne souffraient pas étaient minoritaires. Pour ne pas dire que les gens qui souffraient ça étaient majoritaires, mais ça c'était et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous serions horrifiés de savoir ce que le Seigneur permet qu'il se passe maintenant. On lit ça, question de politique, religion, des brûlures vivantes des personnes, les enterrements vivants des personnes qui se passent aujourd'hui, de temps en temps ça sort dans la presse, mais pour la plupart ça ne sort pas dans la presse, c'est trop commun, mais c'est le cas.
6, donc, il frappe de la verge, et le Seigneur discipline, le Seigneur aime le discipliner, il frappe de la verge, c'est-à-dire, Dieu accepte la responsabilité pour tout ce qui est arrivé dans le verset que je viens de vous lire à haute voix. Dieu accepte la responsabilité. Il dit, c'est moi. C'est ici où des millions de chrétiens professants, non, ça, c'est pas possible. Je n'accepte pas ça. Et la foi qui sauve est une foi qui ne met pas Dieu sur un tribunal pour dire, Dieu, c'est pas juste. Dieu sait ce qui est juste. Dieu n'a jamais agi une seule chose qui n'est pas 100% justice pure, sainte et bonne. Dieu est bon et bon. Il n'a jamais fait une erreur. Il n'a jamais dit pour ce cas, je ne serai pas bon. Dieu n'a rien fait qui n'est pas bon. Il n'y a rien qui s'était passé qui n'est pas sous la juridiction de Dieu souverain, mieux, bon et saint et bon. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais pas juste une réflexion comme ça. Non, supportez donc, verset 7, le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ah! Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Trois idées ici. Endurez-vous la correction. Ou bien, deuxième idée, Dieu ne discipline que ses fils. Tout père instruit ainsi leur fils comme ça. Ça, c'est ce qu'il marque. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Parce que, question rhétorique, la réponse est dans la question, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? J'aime quelques proverbes qui vont à côté. Même les proverbes sont cités. Mais par rapport à châtiment, par rapport à instruction, par rapport à éducation, j'ai utilisé la version Colombe pour tous ces quatre versets en proverbe. À vous de voir plus tard avec toutes les traductions possibles, mais saisis l'instruction et ne lâche pas. Retiens-la car elle est ta vie. L'instruction est ta vie. Donc, subissez l'instruction. Parce que Dieu est en train de faire ça. Dieu était en train de faire ça dans verset 35b jusqu'à 38. C'était une école. C'était une discipline. C'était de l'instruction. Le commandement est une lampe. L'enseignement est une lumière. Les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Proverbe 6, 23. Pourquoi est-ce que Dieu doit utiliser la souffrance pour que les commandements deviennent pour nous une lampe? Pourquoi Dieu doit utiliser la souffrance pour que l'enseignement de la Bible devienne une lumière? Dieu doit obligatoirement utiliser chez vous la souffrance qui vous dépasse pour que ce soit des réprimandes éducatives et pas simplement les édits d'un juge impersonnel, sans amour. Il y a des gens qui voient Dieu comme ça. Ce n'est pas pour des chrétiens, c'est pour des non-chrétiens. C'est-à-dire les choses qui arrivent. Mais Dieu vise ses enfants pour une instruction particulière.
Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Un enfant qui grandit chez ses parents, il n'y en a pas qui ne cherche pas d'une manière ou l'autre de manipuler l'autorité, de neutraliser son autorité pour qu'il puisse voler l'indépendance lui-même. Il cherche à sortir, peu importe où les parents mettent les bornes, ils poussent. Ils poussent parce que, pas parce que c'est trop étroit, mais parce que c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui détermine mon bonheur. Je ne serai pas content avant que je sois tellement indépendant que je ne dépend sur personne, ni mes parents, ni les autorités, ni les gens qui me donnent de l'argent parce que j'ai un compte bancaire assez suffisant, j'ai assez de possessions matérielles, et maintenant je vais vivre ma vie, peu importe ce qui arrive. Et Dieu dit à cet homme riche, tu es fou, monsieur. Ce soir même, tu n'auras plus de compte bancaire. Tu n'auras plus de possessions. Tu seras avec moi face à face pour être jugé. Et nous avons cette impression fausse. Nous avons été drogués pour que nous ayons une fantasme qui dit « Je suis invulnérable éternellement, c'est moi qui est le maître de ma vie. » Tu n'as pas été créé pour être le maître de ta vie. Tu étais créé pour être dépendant sur le maître qui t'a créé. Et puis, la route des hommes droits, c'est de s'écarter du mal qui veille sur sa droite, garde son âme. Et il y en a plein d'autres. Et vous qui êtes plus que jeune maintenant, vous regardez en arrière et vous savez les bêtises que vous aviez faites. Et si ce n'était pas pour les mains restreintes de vos parents, contre quoi vous poussez, vous serez peut-être irretrouvable. Il y a plein de gens à l'âge de, avant 20 ans, qui terminent par dire, c'est pas la peine de continuer. J'ai fait de mon mieux. J'ai tout essayé, j'ai tout gâché. Le dernier acte de rébellion, c'était, c'est pas Dieu qui décide quand je meurs, c'est moi. Et c'est ce qu'ils font. Donc, supportez le châtiment comme des fils. Comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Voici la parole vivante. J'ai beaucoup aimé. Si vous avez cette... C'est une paraphrase. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elle prouve que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Endurer, correction, discipline, instruction. Ce que j'ai appris cette semaine, c'était que 2 Timothée chapitre 3, verset 16, c'est exactement le même mot. Ici, ça vous est bloqué un peu, certaines, mais... Toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous discipliner, pour nous corriger, pour nous reprendre comme amour, avec amour. Et ça, c'est le même mot que l'apôtre qui a écrit Hébreu a utilisé quand il a dit ici, Dieu vous traite, supporte le châtiment. Quel père ne châtie pas
que Père n'instruit pas, n'éduque pas son fils d'une manière ou l'autre, verset 8. Mais si vous êtes exempte de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Je ne trouve plus les anciennes versions qui employaient le mot bâtard. Maintenant, ça ne sonne pas bien. Mais c'est les enfants illégitimes. Vous êtes tous, donc, si vous ne participez à ceci, vous démontrez, vous n'êtes pas fils, vous êtes un enfant illégitime. Et il y a chaque église qui ont des fils et qui ont des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas obligé de rester illégitime. Aujourd'hui, vous pouvez devenir fils. Mais une manière de savoir, une question à poser. Est-ce que je vois Dieu comme l'auteur de ce qui risque, de ce qui va m'emporter en avant dans ma foi? Dieu s'intéresse à ma foi maintenant, plus tard et à la fin. Et il ne risquerait rien si je suis son fils et si je ne suis pas illégitime. Il ne risquerait rien pour rassurer que j'arrive jusqu'au bout. Et pour certaines, la sévérité n'est pas parce qu'il est têtu. La sévérité est très souvent simplement parce que vous êtes devenu accoutumé avec un certain niveau de, entre guillemets, spiritualité. Et il y a des choses encrustées à l'intérieur, comme péché, que simplement le feu plus chaud risque de décruster, ça va sortir et vous allez vous choquer de voir combien il reste de péché à l'intérieur de moi qui pensait presque, pas tout, mais presque sainte comme Dieu. Dieu le sait. Dieu n'est pas le Superman qui entre après un accident pour régler les choses. La différence entre un chirurgien qui prévoit une opération chirurgicale et un chirurgien dans la salle d'urgence, et que le chirurgien qui prépare une opération pour 2 semaines d'ici, il étudie, il regarde tous les radios, il voit tous les prises de sang qui ont été faites, il discute avec d'autres, il précise comment ça va être fait. Alors le problème est là, regarde. Et puis il faut faire. Non, il vaut mieux peut-être qu'il fasse une incision comme ça et utilise tel ou tel outil. Demandez à Thierry, il peut vous expliquer tout ça. Il sait ce qu'il fait. Il planifie ça et il pénètre le plus nécessaire, mais pas plus que nécessaire, pour qu'il puisse, avec minimum de dégâts, et même méconfort, qui malheureusement n'est pas minimal, de rattraper le meurtrier, pour que ça soit enlevé. Le chirurgien à l'urgence, il voit la blessure comme ça, il saigne, il fait de son mieux de fermer la blessure, de faire ce qu'il faut pour réparer. Dieu n'est pas un réparateur. Il est un chirurgien précis qui planifie avec ça dans lequel que vous êtes là maintenant, parce qu'il faut absolument ça. Et il faut que vous répondiez comme il faut pour bénéficier de cette école. Si vous êtes-vous exempt? Agissez-vous comme quelqu'un qui devrait être exempt? Ah, ça revient plus proche. Non, je ne suis pas exempt, je souffre beaucoup. Oui, oui, votre voisin, il souffre aussi, il ne connaît pas le Seigneur. Il est pire que toi. Oui, mais
Ils méritent ça. Moi, non. Vous parlez comme quelqu'un qui pense qu'il aurait dû être exempt. À moi, ça va, mais 10 ans, non. Avez-vous le droit de mettre Dieu sur le tribunal pour dire ça? C'est dur d'accepter ça. Oh, la vie est dure, mais la vie est belle. La vie est très dure pour le chrétien. Mais rien n'est plus belle. Je vous assure, les gens qui dansent dans les bistrots, la vie n'est pas belle pour eux. Oui, pendant 1h30, parce qu'ils ont terminé par chercher des choses, ils ont bu assez d'alcool et pris assez de drogue pour se convaincre d'une fantaisie qui n'est pas du tout vraie. Et demain matin, quand ils doivent se lever pour aller au travail à 8h, c'est pire qu'avant. Ça, c'est le monde. Et un moment plus tard, plutôt, ils disaient, mais ce n'est pas la joie. Il y a des gens qui échangent cette espèce de joie pour la joie éternelle que Dieu est en train de traiter avec chaque épreuve dans notre vie quotidienne. Êtes-vous exempt ou agissez-vous comme vous aurez dû être exempt? Ça veut dire pleurnichez-vous? Murmurez-vous? Dieu a anéanti toute une génération de gens rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est grave. C'est grave. C'est une rébellion de dire, Dieu, je sais ce qui me donne le bonheur, tu ne me le donnes pas, je rejette. Bouddha, signe de ça. Rébellion. Dieu ne m'a pas fait ce que je pensais qu'il aurait dû faire, je boude. Mais j'espère qu'il me regarde. Pour qu'ils sachent que je ne suis pas content. Je parle par expérience. Mais je parle de votre expérience aussi. Et vous le savez. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, donc, double négative, question réciproque. Non, pas réciproque. Où est parti le mot que je... Ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Je vois 5-4 grandes propositions ici. Nos pères, dans la chair... nous ont châtiés. C'est clair. Nous les avons respectés. Nous avons accepté ça. On n'était pas contents, mais c'est comme ça. Notre Père spirituel nous châtie aussi. Combien plus devez-vous soumettre pour avoir la vie, la vraie vie? C'est la partie de notre salut qui est toujours anticipée. Nous sommes sauvés, justifiés une fois pour toutes dans le passé. Nous sommes en train d'être sauvés dans le domaine de sanctification qui est de réaliser au fur et à mesure ce qui nous aurons quand nous sommes enfin entièrement sauvés, glorifiés, passé, présent et futur. Et maintenant, c'est le présent. Et pour certaines dans cette pièce, vous n'êtes même pas encore sauvés de la peine de péché. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous n'aurez pas une seule chance de rentrer et d'être né de nouveau. Et c'est pour cela que je vous conseille d'écouter bien. Quand je prêche aux chrétiens avec la reconnaissance que ceux qui ne sont pas chrétiennes écoutent et ils savent. Il y a quelque chose de réalité qui dépasse la réalité qu'ils connaissent eux-mêmes, sans Dieu. Le Saint-Esprit assure que ce soit le cas. Quand vous témoignez, quand vous passez un message, quand vous lancez une semence éternelle, il n'est jamais pour rien. Et combien de personnes, parce qu'ils avaient entendu un message quelque part, parce qu'ils avaient, ils n'ont jamais pu penser pareil, ils ont été forcés de penser autre. Ça le dérange parce que ça n'accordait pas avec leurs ambitions. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alors, combien plus ? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtiait pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. C'est-à-dire, nos pères, ils nous ont châtiés, ils se sont justifiés. Parfois, ils étaient trop sévères. Parfois, ils étaient trop indulgents. Parfois, ils étaient capricieux. Parfois, ils l'ont fait en colère. Mais, ils se justifient. C'est mon fils. Et son fils a accepté. Dieu aussi ne châtie jamais capricieusement, jamais en colère, jamais en punition, mais toujours en éducation, en formation. Vous devez avoir votre diplôme. Et vous n'aurez pas le diplôme sans passer les épreuves. Avec réussite. Il est vrai, dernier verset, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Trois idées sont là-dedans, je vois. Tout châtiment nous attriste. On n'est jamais en train de sauter et faire la fête pour des douleurs. Mais plus tard, ils vont le réjouir. Présentement, attristé. Mais nous savons des choses, Jacques dit. Regardez comme un sujet de joie les choses. Je ne suis pas joyeux, mais ce sujet est un sujet de joie. Et je sais qu'un jour, ce que je sais dans ma tête et ce que je vais réjouir dans mes sentiments vont s'accorder tous les deux ensemble. C'est pour cela que je persévère et je continue jusqu'au bout. Parce qu'un sujet de joie qui n'est pas mes sentiments pour l'instant, mais c'est quand même intellectuellement encaissé et cru, je l'accepte. Et je continue. Et je pleure. J'ai mal, mais je ne le plaigne pas. Sauf pour dire, oh Dieu, si c'est possible que cette coupe passe. Néanmoins, je ne veux que ça... N'avorte pas le bébé. Avance un terme. Parce que Dieu est en train d'accomplir quelque chose et nous cherchons à tout prix d'éliminer la durée, l'intensité, la puissance de ce que Dieu a prévu exprès, que ça soit si intense, si long, si divers par rapport à d'autres. Uniquement pour moi et pour toi. Tout châtiment nous attriste. Plus tard, ça nous réjouisse. C'est une discipline de fruit paisible de justice. Et pour terminer rapidement, trois observations bibliques par rapport à ce que nous venons de voir. La souffrance est inévitable. Vous pouvez dire plus fort que ça. La souffrance est décrétée par un Dieu souverain, si tu veux, mais la souffrance quand même est inévitable d'une manière ou l'autre. Deuxième, la souffrance de Jésus était nécessaire pour notre justification. Regardez à Jésus. La justification traite les obstacles entre moi et ma sanctification. Vous savez, la grande différence entre le catholicisme de l'époque de la Réforme et le protestantisme de l'époque de la Réforme, c'était simplement le déplacement de ces deux mots. Pendant 1000 ans, la Bible était inaccessible à beaucoup de personnes. Pendant 1000 ans, l'Église enseignait la sanctification mène à la justification. La sanctification termine. Tu montes, tu as 17 sur 20, tu as 18 sur 20, tu as 19 sur 20, tu as 20 sur 20 justifié. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique romaine jusqu'à aujourd'hui. Le grand débat de la Réforme, c'était de revenir à l'Église primitive. Paul dit non, c'est le contraire, la justification. Enlève l'obstacle de péché pour que, ayant reçu la justice de Dieu, je serai sanctifié jusqu'à ce que je suis glorifié. Positionnellement sanctifié, mis à part pour Dieu, mais pendant le restant de ma vie, à travers l'école de la souffrance, je deviens. Et comme ça, comme dans le catholicisme, c'est la loi du devoir. On doit, on monte. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de vrai amour. Il y a souvent, comme Martin Luther disait à son confesseur, je déteste Dieu. Il exige trop de moi. J'arrive pas. Je le déteste. Il ne faut pas parler comme ça à moine. Mais il était comme ça. Parce que c'est vrai, à moins que Dieu donne ce qu'il ordonne, ce n'est pas possible. Et Martin Luther a compris. On est justifié par la foi et la foi seule. Et l'obstacle du péché maintenant est enlevé. Et maintenant, je suis dans l'école jusqu'à la mort. Christ va être à côté de moi. Il va avoir son thermomètre. Il va avoir tout ce qui est nécessaire, il est le meilleur chirurgien qui existe, il va utiliser les hôpitaux, il va utiliser le Deliprane, il va utiliser d'autres choses. Mais c'est lui le guérisseur. Cherche pas un guérisseur. Cherche pas un délivreur. Et avorter le bébé, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà ce que vous attend. Sous couvert de la religion, christianisme, beaucoup, cherchent à avorter leur situation sans patiemment aller et endurer jusqu'au bout. Je ne veux pas dire qu'il faut que vous cherchiez la douleur. Mais la souffrance de l'enfant de Dieu est indispensable pour sa sanctification. Sinon, le péché incrusté dans la personne la plus pieuse dans cette pièce ne serait pas décrusté. Et Dieu monte le feu, mais il garantit sa présence. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de ta force. Quatrième point, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Cinquième point, afin que vous puissiez la supporter avec réussite.